écoutez Nos Limites Sécu, podcast francophone dédié à la cybersécurité. Nous espérons que vous avez passé de très très bonnes vacances. Et pour débuter, pour attaquer la rentrée, nous allons réaliser un épisode dédié à l'actualité. Donc, qu'a-t-il bien pu se passer cet été? C'est ce que nous allons découvrir avec Christophe Renard.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Xavier Mertens.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Loa. Alors, messieurs, quelle a été l'actualité de la cybersécurité cet été?
Une actualité absolument pléthorique. Hein. Alors, par exemple, quelque chose d'encore récent et dans tous nos esprits, c'est le fait que un militant des droits de l'homme aux Émirats a eu l'intelligence de pas cliquer sur un lien qu'il a reçu dans un SMS, mais de l'envoyer à Citizen Lab, qui a finalement découvert le fameux logiciel malfaisant de la société israélienne NSO, exploitant 3.0 day de l'iPhone et permettant de récupérer toutes les données, communication téléphonique, SMS, carnet d'adresse, etc. sur l'iPhone. Et donc, comme ça, on a découvert l'utilisation de ce logiciel et les pays aussi dans lesquels il a été utilisé.
Nicolas, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cet été ?
Pour moi, la grosse affaire, c'est quand même l'histoire de Shadow Brokers, avec un groupe de pirates qui, soi-disant, aurait piraté Equation Group. Equation Group, c'est un nom de code qu'on retrouve dans de nombreux white papers, mais qui, en fait, en filigrane, désigne la NSA, ou du moins des gens qui travaillent directement pour le gouvernement américain. Et donc, ils ont tout simplement mis un dump de failles sur Internet en disant, voilà, il y en a une partie qui est gratuite, et il y en a une autre partie, c'est une vente aux enchères Bitcoin. Alors, c'est dommage qu'ils aient pas utilisé Ethereum, hein, parce que là, t'envoies juste de l'argent sur Bitcoin, et puis, si ça atteint un certain montant... ils ont promis de le rendre complètement public, mais je crois qu'il fallait 500 millions de dollars pour que ça devienne public, donc je pense qu'on n'aura jamais la deuxième partie. Et alors, ce qui est énorme dans cette fuite, c'est que les failles sont vraiment très très intéressantes, parce que en gros, c'est juste des attaques à distance qui marchent sur des VPN et des pare-feux très utilisés en entreprise, donc Cisco, Fortinet, voilà.
Et apparemment, il y a... en entreprise et dans les institutions publiques gouvernementales.
Oui. Et on peut aussi citer aussi la marque chinoise TopSec qui était dans le lot et dont je ne connais pas les clients mais qui apparemment sont quand même tous situés en Asie du Sud-Est. Et donc, pour les failles Cisco qui ont été les plus analysées sur Internet parce que c'est quand même les failles les plus faciles, enfin, le matériel est assez facile à se procurer. C'est juste énorme. Il y a une faille qui, en gros, te donne un accès direct à la console de l'équipement. Il y en a une autre qui te permet de lire à distance la mémoire de l'équipement et donc de retrouver les clés prépartagées que tu utilises sur ton VPN. Apparemment, ça marchait déjà sur Pix, donc ça veut dire que, globalement, depuis 2002, tu pouvais extraire les clés de chiffrement d'un VPN à distance juste en requêtant une machine, quoi.
Il faut rappeler aux auditeurs que la fuite, en fait, elle est publiée maintenant, mais tout date de 2013.
Enfin, les exploits ont été écrits en 2013, mais certaines des failles ont plus de 15 ans, quoi. Donc, après, il y a eu plein de questions annexes autour de cette fuite, par exemple sur la qualité des exploits qui étaient pour la plupart rédigés en Python. Il y a eu tout un débat sur... ce qu'ils appellent le Vulnerability Equity Process aux États-Unis, c'est-à-dire en gros l'arbitrage qui dit, voilà, est-ce que cette faille, est-ce qu'on la fait corriger ou est-ce qu'on l'exploite ? Et la NSA disait qu'ils faisaient corriger 95% des failles qu'ils trouvaient. Bon, apparemment, le 5% qu'ils gardaient, c'était quand même les plus intéressantes.
Hein. Ah oui, puis 95-5%, on voit bien que c'est pas vrai. Ils ont plutôt tendance à garder 95 et à faire corriger 5.
Oh, ça, tu peux pas dire, parce que il est possible qu'ils reportent des centaines de failles dans des logiciels open source à la con, enfin, tu vois, des forums en PHP, des trucs comme ça. Après, si t'as une faille remote dans un firewall, ça vaut bien 100 failles sur des forums de support en PHP, quoi.
Il y avait aussi, bon, là, l'archive est assez grosse, ça fait 300 mégas. Il y a aussi pas mal d'outils de post-exploitation qui sont dans tout, n'ont pas été étudiés. Et effectivement, il y a eu des discussions sur la qualité du code parce que il y a des choix de clés cryptographiques qui sont 01, 02, 03, 04 et ainsi de suite. Il y a des choses un petit peu bizarres. Et ce qui a surpris, puisque tout le monde faisant l'équivalence Equation Group NSA et faisant NSA cryptographie, on s'attendait à ce qu'il y ait des choses un peu mieux finies. Mais et surtout, tout n'a pas encore été dépouillé, donc il y aura sans doute un suivi d'actualité sur le sujet.
Bah attention, parce que la NSA fait appel à des prestataires. Hein. Je veux dire, ils ont Norton Grumman et autres entreprises du lobby militaro-industriel. Donc il est possible que ce soit du code fait par un stagiaire chez un sous-traitant.
Hein. Sinon, Christophe, qu'est-ce qui a retenu ton attention ?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est une nouveauté sur la monétisation des failles, puisqu'on a le cas, en fait, donc qui est l'exploitation d'un certain nombre de failles trouvées sur des appareils médicaux implantables, essentiellement des stimulateurs cardiaques, qui a, au lieu de le présenter dans une conférence ou de le vendre directement, bon, on voit pas trop les consommateurs, les chercheurs en sécurité sont allés s'allier avec une entreprise qui s'appelle Muddy Waters, rien que le nom dit beaucoup de choses, dont la spécialité c'est le shorting, c'est-à-dire en fait de la vente à un prix inférieur, enfin ils s'engagent à vendre des actions à une date dans le futur à un prix fixé au moment de l'engagement, et à eux de se débrouiller pour que ça leur coûte moins cher que le prix de vente auquel ils sont engagés. Et donc, en s'associant avec cette entreprise, eh bien, les chercheurs en sécurité ont accepté de se faire payer au pourcentage de l'opération, des gains de l'opération financière, opération consistant à publier un papier, donc à acheter des actions, enfin, à s'engager à vendre des actions de Saint Jude Medical qui étaient ciblées. Publier un papier très alarmiste, pas d'une très très bonne qualité, mais il y a effectivement apparemment des failles, et jouer sur le fait que ce papier allait faire chuter le cours pour pouvoir acheter à un prix très très bas. Bon, chose intéressante, c'est que le cours est tellement descendu qu'il a été suspendu pendant un certain temps. Ça pose des questions éthiques. Apparemment, c'est légal aux États-Unis. Je ne sais pas si ça le sera en Europe. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui sont venus dire derrière, bah, c'est peut-être éthiquement douteux, mais est-ce que c'est pas la meilleure façon de faire enfin réagir les entreprises à qui on signale des vulnérabilités et qui font rien ? Donc, il y a un débat assez intéressant. Personnellement, je trouve que sur le plan éthique, c'est quand même catastrophique. Mais c'est novateur et on peut supposer que ça va se refaire.
Ah oui, et puis les malfaisants, maintenant, ils ont vu que plutôt que de chercher difficilement un zero day sur iOS et le vendre à $1 million, eh ben, il valait mieux chercher des zero day dans des équipements médicaux et on gagnait bien plus qu'un $1 million.
Mais c'était déjà le business model d'un ancien hacker qui s'appelle, enfin, son pseudo c'est Weave, qui en sortant de prison a monté un fonds qui s'appelle TRO LLC, Limited Liability Company. Et c'est le business de ce fonds, c'est effectivement de spéculer sur les cours d'entreprise suite à la publication de failles ou autres. Après, je sais pas ce que ça a donné, hein. C'était peut-être juste un troll à la base, mais il en avait fait la publicité déjà il y a quelques années, quoi. L'idée est pas nouvelle, il fallait juste trouver l'entreprise dont le cours allait effectivement fluctuer, parce que quand on regarde les hacks, même celui de Sony ou autre, le cours a à peine bougé.
Mais dans ce contexte-là, il n'y a pas de notion de délit d'initié. Je veux dire, c'est légal ce qu'ils ont fait là-bas ou
Ah, ce serait plutôt une manipulation de cours. Apparemment, ils font pas l'objet de poursuite. Moi, ce que je pense qui est nouveau, c'est l'alliance de deux équipes de spécialistes différents, des gens qui sont spécialistes du montage financier et des gens qui sont des spécialistes de la sécurité. Bon, en plus, ce qui s'est passé en face, c'est que l'entreprise concernée a fait une réponse qui est vraiment pas terrible, où ils prétendent qu'il peut pas y avoir de faille de sécurité dans leurs équipements. Bon, ça n'a pas arrangé les choses. La légalité de cette chose-là, les commentateurs américains ont l'air de dire que c'est légal.
Bon, c'est de la cybercriminalité en col blanc.
C'est plus de la manipulation de cours que de l'initié.
C'est de la cybercriminalité en col blanc, en fait.
Ah oui, moi je suis d'accord, c'est vraiment de la cybercriminalité en col blanc, et on gagne beaucoup plus d'argent et on prend beaucoup moins de risques qu'au travers de la cybercriminalité classique. Ça nous ramène aux rançongiciels, hein, qui sont une véritable industrie dirigée par des mafias, avec mules, développeurs payés, etc.
Oui, enfin, le rançongiciel, quand même, enfin, comme tu dis, t'as besoin de mules. Alors que là, les gars qui font ça, ils ont pas besoin de se cacher, quoi.
Ah, bah, c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus facile à organiser que les rançongiciels. D'où l'intérêt de l'opération. Ah, je pense qu'il y a, de l'avenir. Hein.
Xavier.
Moi, je dirais, par rapport à, donc, à l'opposé d'Hervé, qui lui a parlé d'une, vulnérabilité qui ciblait juste une ou deux personnes. Moi, je vais plutôt parler enfin, pas une faille de sécurité, mais d'un problème de sécurité qui touche des millions de personnes dans le monde, Pokémon Go. Si on met de côté le fait que ça peut être dangereux de jouer lorsqu'on est à vélo, lorsqu'on conduit, lorsqu'on traverse la rue, etc., il y a quand même pas mal de faits qui peuvent porter à réfléchir. Par exemple, j'ai joué juste 5-10 minutes parce que je voulais tester comme tout le monde, donc je l'ai installé et je l'ai très vite désinstallé parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, ce qui m'a déjà frappé, c'est lorsqu'on installe l'application, on doit donner ses login password Google. Voilà, ils doivent se connecter au compte Google existant. Donc il y a un petit disclaimer, donc un message qui dit que c'est pour la bonne cause, ne vous en faites pas, etc. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Et l'autre point aussi, c'est que il y a la possibilité, donc à la fois, donc ça peut être vu du bon ou du mauvais côté. Du bon côté, j'ai lu que des sociétés ou des commerces, des restaurants peuvent acheter des ressources appartenant au jeu pour forcer et attirer les gens dans leurs établissements. Donc en payant quelques euros, un restaurant peut très bien faire apparaître des Pokémon assez rares, ou bien faire apparaître, je ne connais pas la terminologie de tout le jeu, mais faire apparaître des ressources qui vont potentiellement attirer des clients potentiels, et forcément lorsqu'ils sont sur place, ben, le pas est déjà fait, donc on peut leur proposer des promotions supplémentaires, etc., et donc c'est forcer un petit peu la vente, forcer l'acquisition de clients. Mais le même s'est également vu, je crois que c'est aux États-Unis, où des malfrats ont carrément forcé des gens à se rendre dans des endroits très peu fréquentés, style des parcs, des rues sombres pendant la nuit, etc., pour justement attirer les gens. Et qu'est-ce qu'on a quand on se balade en jouant à Pokémon Go? On a des smartphones de dernière génération, on a plein d'équipements électroniques, et forcément, ben, les personnes se sont fait dérober tous leurs équipements.
Ah, ça, c'est
J'ai bien aimé. C'est quand même pousser le vice vraiment à l'extrême.
Et alors, le fait de s'enregistrer avec son login password Google, en fait, ça sert à quoi? Est-ce qu'on sait maintenant pourquoi est-ce qu'il réalise cela?
Surtout que c'est une filiale, hein, c'est une filiale de Google. Moi, j'ai jamais compris ce que Niantic faisait de toutes les informations qu'ils collectaient sur les joueurs, avec là où ils jouent, là où ils sont, etc. Je pense qu'il y a un gros flou sur les données qui sont collectées et l'objet réel du traitement de ces données.
Mais une autre chose, un point qui me revient à l'esprit, Niantic est aussi relativement agressif quant à l'utilisation de son application et le contrôle de l'application, parce que il y a quelques semaines, le plus gros opérateur mobile belge s'est fait blacklister, s'est fait bloquer par Niantic, parce que un des utilisateurs, je crois que c'était avec une carte prépayée de son réseau, avait émis énormément de requêtes au niveau du jeu pour générer, de nouveau, je ne sais pas exactement les tenants et aboutissants, mais pour générer des ressources. Et donc Niantic a dit, voilà, c'est une adresse IP qui provient de tel opérateur, je bloque le range d'IP. Et donc une grosse partie des clients de cet opérateur belge n'ont plus joué à Pokémon pendant, je crois, quelques jours ou allez, quelques heures. Ça a fait quand même, ça a eu un impact non négligeable, je crois, sur leur helpdesk. Et j'ai vu passer.
Les meutes étaient frôlées.
Ah oui, j'ai vu passer sur des mailing lists des mails de personnes du SOC de cet opérateur qui essayaient de joindre Niantic par tous les moyens possibles imaginables en disant, voilà, débloquez-nous, parce que...
Oui, mais ça, c'est très intéressant. C'est une atteinte à l'ordre public. C'est une ingérence dans les affaires d'un État.
Ça n'a rien à voir. Tu peux bien sûr que tu peux blacklister de l'OVH ou autre si tu trouves qu'il t'envoie du spam.
Oui, voilà, c'est la même chose. Sauf qu'ici, on touche le grand public qui lui ne comprend pas que pourquoi est-ce que soudainement il ne peut plus lorsqu'avec sa connexion 3G, 4G, il ne peut plus jouer à Pokémon Go. Ça fait réfléchir quand même.
dans les blacklistés de Pokémon Go, moi, il y en a quand même un qui m'a fait sentir vraiment passer au 21e siècle. C'est la démonstration d'une attaque utilisant de la software Defend Radio pour pirater le GPS, pour faire croire au smartphone qu'il est ailleurs, pour collecter des Pokémon sans se déplacer.
Très, très bien.
Ouais, mais ça, enfin, je te rassure, c'est has-been. Hein. Maintenant, il y a des bots. Parce que aussi, ce qu'on dit pas, c'est qu'ils ont donc, ils ont décidé de faire la guerre aux pirates, comme tu dis, Xavier. Et donc, ils ont fait un truc un peu à la Skype avec des mesures d'environnement qui sont passées dans une boîte noire et qui sont envoyées au serveur après, quoi. Et donc, il y a eu un crowdsourcing du reverse engineering de ce fameux Unknown 6, qui était le champ numéro 6 dans la structure. Et en 3-4 jours, en gros, les pirates avaient tout reversé, quoi. Et du coup, maintenant, il y a des bots Pokémon qui tournent très très bien et t'as plus besoin de spoofer du GPS, quoi.
Et c'est ce l'industrie que ça a généré, ce Pokémon. C'est absolument invraisemblable.
Mais ce qui est aussi assez génial, c'est que ça pose des questions. Il y a une première question, par exemple, c'est la gamification. Parce que tous les vendeurs d'objets connectés, tu sais, les bracelets et autres, ils ont jamais réussi à faire sortir les gens. Je veux dire, il y en a qui ont accroché le bracelet à la queue de leur chien pour faire semblant d'avoir des pas. Alors que là, les gens, ils sortent d'eux-mêmes, ils font des kilomètres et des kilomètres.
C'est le côté positif. Au moins, les gens bougent et les gens sortent.
Et je crois que sur l'industrie des IoT, c'est vraiment la gamification. Les gens qui jettent pas leur objet au bout d'une semaine en disant ça sert à rien, c'est vraiment un point. Il y a un deuxième point aussi, c'est sur la propriété virtuelle. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont plaints en disant « Moi, je suis un Pokéstop. » Par exemple, la tour de la Société Générale à la Défense, le Pokéstop est à l'accueil. Donc, tu dois rentrer dans le bâtiment, en fait, pour pouvoir aller au Pokégym combattre d'autres Pokémon. Et donc, il y a plein de gens. Je crois que l'Éducation nationale française, d'ailleurs, a officiellement demandé à ce que toutes les écoles de France ne soient plus des Pokémon, des Pokéstop. Et la question que ça pose, c'est « Est-ce que tu es propriétaire de l'emplacement virtuel de chez toi sur une carte ?» C'est-à-dire, est-ce que si je crée une carte virtuelle type OpenStreetMap et que je mets une connerie, enfin, ou que dis un lieu d'intérêt à cet endroit, est-ce que tu en as la propriété ou pas, quoi?
Ah, mais là, de toute façon, il y a un énorme bug. C'est que nous, la propriété, elle a aussi une altitude. Et le GPS n'a pas d'altitude. Et donc, en fait, c'est le propriétaire virtuel, il peut être dans son appart, mais s'il y a 10 étages, il y en a 9 autres, c'est pas ton appart, et c'est la même emplacement dans Pokémon Go.
Ouais, donc en fait, ça a soulevé plein de questions très intéressantes, ce jeu, je trouve. Le fait que même la newsletter du CERTFR en parle, ça prouve
Mais finalement, avec le recul, je me rends compte qu'elle en a parlé à bon escient. Et elle a bien fait.
Ouais.
Non, mais au début, ça a fait rigoler tout le monde. Mais il y a un vrai enjeu de société qui touche la sécurité.
Oui, le seul conseil utile qu'il donnait dans la newsletter, c'est d'utiliser un compte dresseur Pokémon plutôt que son compte Google pour jouer. Bon, en vrai, comme les serveurs de login Pokémon sont beaucoup plus instables que ceux de Google, de toute façon, tu peux pas vraiment jouer si tu t'es créé un compte de dresseur. Ça, c'est pro tip pour les auditeurs du podcast.
Donc, la seule solution, c'est d'utiliser un téléphone qui ne sert qu'à ça, avec un login à part avec lequel on peut pas faire le lien avec son vrai login Google, etc. Oh là 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 là. Et toi, Johan, qu'est-ce que t'as retenu des événements de cet été ?
Alors, cet été, ce qui m'a marqué, c'est ce qui s'est passé sur le French Darknet. Donc, le French Darknet, en fait, c'est un forum, donc accessible via Tor. C'est également une plateforme d'achat. Et cette plateforme fait également tiers de confiance, c'est-à-dire qu'un acheteur, en fait, va verser des bitcoins sur la plateforme. Et quand les bitcoins ont été reçus, eh bien, le vendeur envoie la marchandise. Ce qui fait que un grand nombre de bitcoins, ce qui fait que les participants ont des comptes bitcoins sur la plateforme. Et donc cette plateforme a été fermée pendant quelques jours. Et quand elle a été rouverte, eh bien, tous les bitcoins avaient disparu. Alors, victime d'un hack ou pas, c'est la question.
Ouais, mais bon, quand tu commences à mettre ton argent sur le Darknet, bah, déjà, t'es un malfaisant, donc tu risques de te faire avoir par d'autres malfaisants.
Ah, bah voilà, c'est ça. Là, c'est les malfaisants qui
ont... C'est pas plutôt les admins qui sont partis avec la caisse ?
C'est la question qui est posée.
Moi, je ne les connais pas, hein, mais je pense que c'est sans doute ça.
Là, tu n'es plus dans la bienveillance, Erwin, attention. Tu fais un procès d'intention. Et en parlant d'argent, là, c'est quoi cette histoire d'alerte Swift Parce que moi, je ne suis pas dans le domaine bancaire, mais apparemment, ils ont découvert qu'il
y avait beaucoup de... Oui, en effet.
L'argent n'était en sécurité nulle part de nos jours.
Il y a un bulletin Swift destiné aux banques, en fait, qui a leaké, où ils annonçaient qu'ils avaient constaté un certain nombre d'attaques, suite aux attaques sur les banques, en particulier celle du Bangladesh, il y a quelques mois. Ils avaient regardé d'un peu plus près, qu'ils avaient constaté un certain nombre d'attaques sur les banques, dont au moins deux réussies avec des sommes d'argent. Ils ne donnent pas l'échelle des sommes d'argent. Des attaques ayant réussi à extraire des sommes d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que dans le bulletin, il y a aussi un doigt qui est pointé vers les gens qui opèrent les nœuds de raccordement, enfin l'environnement dans lequel sont installés les nœuds de raccordement Swift, qui est une façon de dire, nous, Swift, on n'a pas de responsabilité. Ce qui est vrai, c'est que si on colle un terminal Swift aussi sécurisé qui pourrait être théoriquement dans un environnement qui n'est pas du tout, comme on voit dans le rapport sur la Banque du Bangladesh, évidemment qu'il est très exposé. Mais y a un vrai déport dans ce papier de la part de Swift de la responsabilité vers les banques opérant les terminaux. Donc c'est dans la lignée de ce qu'on a vu, c'est aussi dans la lignée des attaques. Il faut se rappeler que les attaques Swift d'il y a quelques mois, il y avait un doute sur le fait que les attaquants soient purement criminels ou soient de l'étatique, en particulier les doigts étaient pointés vers la Corée du Nord à l'époque.
Alors on n'avait pas traité ces attaques, c'était quand même des attaques relativement entrée de gamme, si je puis me permettre, qui ont exploité des infrastructures qui étaient notoirement défaillantes. Avec des équipements, style pas de firewall, des équipements qui étaient complètement pas à jour, etc.
Oui, c'est un trait de gamme, mais il faut quand même être dans le milieu pour comprendre comment ça marche. C'est comme tous ces systèmes de SAP ou de mainframe, il faut connaître les commandes parce que tu vas pas...
Ça, c'est le cœur du sujet. Swift a beaucoup joué sur la sécurité par l'obscurité. Et puis on s'aperçoit que dès l'instant que quelqu'un cherche à comprendre comment ça marche, finalement, on passe au travers comme n'importe quelle application, logiciel ou système de communication.
Simplement, c'est pas le genre de truc que tu peux acheter sur eBay ou sur Alibaba pour t'entraîner à la maison, quoi.
Et puis les attaques n'étaient pas si rase-moquette que ça, parce que typiquement dans le détail qui a été publié sur l'attaque sur la Banque du Bangladesh, le terminal Swift avait, enfin l'impression des traces du terminal Swift avait été désactivée pour que les transactions passent inaperçues. Enfin, ça nécessite vraiment de savoir comment le truc marche, pas simplement à base d'un scan réseau et d'avoir exploré. Il faut connaître le process bancaire. Donc effectivement, c'est quand même des gens qui avaient fait un travail de reconnaissance ou d'information avant ou qui sont du métier.
Oui, mais tu te rends compte le nombre de gens qui opèrent des systèmes Swift dans le monde, y compris dans des pays très très pauvres ? Le nombre de gens qui ont acquis la compétence ? Voilà, c'est...
Ouais. La sécurité par l'obscurité ne fonctionne pas, voilà. Merci. Bon, et en parlant de piratage, il y en a eu d'autres, des piratages là, non ?
Oui, je trouve qu'il y en a un qui est assez intéressant sur plein d'aspects, c'est tout ce qui a été campagne de piratage autour des élections américaines. Puisque donc il y a eu historiquement des piratages qui ont été constatés sur les infrastructures du Parti démocrate. Il y a eu enquête très très vite, la NSA a fait une attribution aux Russes. Il y a eu un rapport de CrowdStrike et il y a eu une attribution par les services américains qui pointent donc vers APT-28, APT-29 qui sont généralement considérés comme étant russes. Les contenus qui ont été piratés chez les démocrates ont été leakés, en particulier avec quelqu'un qui se fait appeler Guccifer 2, qui a revendiqué le piratage, qui a essayé de se faire passer pour un Roumain, mais apparemment c'était pas du Roumain tel que l'écrirait un Roumain. Enfin, il y a eu tout un tas de rebondissements, et là aussi, doigt pointé vers les Russes à plusieurs reprises. Alors, il y a deux aspects intéressants. C'est rare de voir des entités gouvernementales faire de l'attribution clairement en pointant un pays. C'est même plutôt une première. Et si c'est vraiment les Russes, ce serait une première intrusion dans des élections d'un autre pays, en tout cas sur un pays démocratique à l'échelle des États-Unis.
C'est une première pour la NSA, mais c'est une seconde aux États-Unis. Parce que, pour rappel, oui. Barack Obama avait accusé la Corée du Nord du piratage de Sony.
C'est vrai. Et il y a eu une note du FBI qui a fui aussi la semaine dernière, pointant au fait qu'il y avait eu des attaques et des tentatives sur un certain nombre de votes et de scrutins au niveau des États, et qui là aussi étaient directement attribués aux Russes. Donc soit les Russes, et c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que les démocrates ont rebondi dessus et ont pointé aussi sur un certain nombre de gens dans la campagne Trump qui avaient des relations avec la Russie, et c'est intéressant de voir que les événements informatiques sont utilisés pour dire attention, les Russes veulent faire élire le candidat d'en face, que ce soit vrai ou non, c'est vraiment une première, je pense.
Et c'était pas plus simple de pirater les machines à voter plutôt que ces hacks compliqués? Et donc, il y a eu un deuxième piratage d'envergure, mais enfin, il ne date pas de cet été, lui. C'est celui de Dropbox. Apparemment, le fichier avec les 68 millions d'utilisateurs qui avait été volé en 2012 a fini par refaire surface.
Bah, je
me suis toujours demandé comment est-ce que les gens avaient accès à ce genre de fichier. Enfin, d'un seul coup, sur Have I Been Pwned, ils ont la copie du leak, mais moi, je ne l'ai pas trouvé en public.
Bah, je suis occupé d'essayer de la downloader. Apparemment, elle est sur Tor. J'ai 2-3 URL, mais ça ne passe pas pour l'instant. Moi j'ai un compte Dropbox, mais qui est un compte dormant parce que je l'utilise plus depuis quelques années, et j'ai vérifié, il y a des sites qui permettent de vérifier si on se trouve dans la base de données, et mon compte y était en tout cas, donc je ne sais pas quel password s'y trouvait. C'était un ancien password, mon password encore qui restait depuis quelques années, mais j'ai reçu, donc Dropbox a lancé une campagne de notification à tous ses utilisateurs qui n'avaient justement plus changé leur mot de passe depuis pas mal de temps. J'ai reçu ce mail il y a environ une semaine, donc bon, je ne l'utilise plus, mais j'ai quand même changé mon mot de passe par sécurité, comme ça c'est fait. Mais apparemment il y a un risque que beaucoup de personnes soient impactées, surtout. Allez, je parle pour la Belgique, Dropbox est vachement utilisé, et même en entreprise, même s'il y a la tendance à le bloquer de plus en plus, il y a énormément d'utilisateurs qui restent connectés sur leur compte Dropbox, et ça peut avoir un impact relativement important pour les sociétés.
Alors moi j'ai vu mon médecin, mon généraliste gérer tous ses patients dans Dropbox.
Oui, ça ne m'étonne pas.
Il faut passer sur Baidu, là, avec pan.baidu.com. Ils te proposent 2 terras gratuits si tu crées un compte.
Mais ça datait de. Je crois que le leak date de 2012. Hein.
Oui, c'est ce que les gens disent. Ouais. Je crois que Troy Hunt a vérifié.
Ce serait un leak de 2012 dû à une réutilisation d'un mot de passe d'un employé de Dropbox, donc qui serait fait pirater son compte depuis l'internet, depuis une réutilisation. Pour ce qui est comment est-ce que les fichiers arrivent chez Troy Hunt, il a posté il n'y a pas très longtemps un post sur son blog où il expliquait qu'il commençait à être assez connu pour que les sociétés qui se sont fait pirater lui communiquent elles-mêmes les listes de hashes qui ont fui, de manière à avoir un point vers lequel envoyer les gens.
Ça c'est bien, ça c'est positif.
C'est un développement tout à fait positif. C'est intéressant de voir aussi que bon, ben, il a lancé ce truc-là sans vraiment consulter personne, et que ça a atteint un succès tel, et il y a une telle abondance de leaks, hein, que ça devient une institution.
Dropbox a communiqué comme quoi maintenant ils sont enfin passés une authentification à double facteur.
Oh, ça fait longtemps, parce que moi je l'ai activé sur mon compte Dropbox. Il supporte Google Authenticator, donc.
Oui, mais en interne. Puisque là, on dit qu'en 2012, c'est le compte de quelqu'un en interne.
En 2012, il était jeune.
C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cet été ?
Ben, pas grand-chose. Il s'est passé des trucs à Black Hat DevCon ou pas ? Des confs notables ou encore des voitures de piratés ?
J'y étais pas.
Je n'y étais pas non plus.
Il y a une nouvelle conf sur le piratage de sextoys à nouveau. Alors le piratage n'était pas très intéressant comme d'habitude, si ce n'est qu'on pouvait en activer avec des ID qui sont trop courts, donc on peut faire des brutes force pour activer tous les équipements. Ce qui est plus intéressant, c'est que les gens qui avaient reversé les applis de contrôle ont vu que les entreprises qui vendaient ce genre d'objets rapatriaient beaucoup d'informations environnementales, température, activation, fréquence, etc. sur leurs équipements, sans vraiment l'avoir signalé aux usagers. On peut se demander quelle utilisation peut être faite des données. Là, on est quand même avec Pokémon Go. Mais c'est quelque chose qui se multiplie, des entreprises qui collectent des données pour collecter des données. Il y a les gens qui commentent sur le fait que finalement il y a une espèce d'explosion de la valorisation de ma startup sur combien de données j'ai collecté, un peu comme on voyait au début 2000 sur combien de comptes utilisateurs vous avez. Ben là, c'est quelle quantité absurde de données vous avez sur vos usagers.
Oui, et encore avant, c'était les opérateurs. C'était les opérateurs télécoms ou Internet, ça marchait pareil. C'était le nombre de gens sur leur truc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets connectés qui, malheureusement, rapatrient tout sur le serveur central du fabricant. Et on se dit, finalement, j'ai payé l'objet quelques dizaines d'euros, mais c'est pas totalement gratuit, mais je suis quand même le produit parce que je me fais piquer toutes mes données, et souvent des données de santé.
C'est peut-être même un des gros dangers de l'internet d'internet des objets, c'est qu'en fait derrière chaque objet qui n'a pas d'interface locale en général, il y a un cloud, il y a des données qui sont collectées et la constitution de mégabases de données, ça permet ensuite de les croiser dès qu'on a un identifiant pivot. Typiquement l'email qui va permettre de rapprocher le compte Google, qui lui-même sera rapproché du numéro de téléphone, qui est rapproché d'autres trucs. Donc c'est pas, je pense, il faut pas regarder ce que collecte un objet individuellement, mais qu'est-ce que ça peut rajouter dans le profiling des usagers quand on va croiser toutes ces bases de données. D'autant que même si l'entreprise est la mieux intentionnée, eh bien il y en a un certain nombre qui vont faire faillite, et ça fait partie des actifs de l'entreprise d'avoir collecté des téra de données sur leurs usagers.
Ah oui, puis quand tu as un petit objet qui permet d'éviter de perdre son porte-clé et que tout est dans le cloud, bah si tu veux savoir où sont les clés de quelqu'un, hop, le tour est joué.
Ouais, il y a eu quelques releases aussi à Black Hat. Je sais pas si ça vaut le coup de faire un épisode complet dessus, mais il y a un outil d'analyse de permission Active Directory qui s'appelle Bloodhound qui a été publié. Et apparemment, du coup, l'ANSI a mis à jour son GitHub avec l'outil qui avait été présenté à STIC il y a 2 ans, AD Permission. Donc ça, c'est peut-être un truc à regarder. Et non, tu fais la tête, Christophe ?
Non, j'ai pas réussi à le faire marcher, la version updatée. Mais il y a des vrais développements à regarder sur la gestion de tout ce qu'il y a dans l'AD et de tout ce qui est chemin de contrôle et commutativité des permissions, et aujourd'hui où il y a un outillage insuffisant pour l'auditer correctement. Donc on va en voir beaucoup, j'espère, arriver en termes d'outils.
Il y a aussi la start-up de Bruce Dang qui est sortie du mode Stealth, comme on dit. Donc c'est un ancien Microsoft et il lance un nouveau produit qui s'appelle Veramine, qui bien sûr est un anti-APT. Mais ça vaut peut-être le coup de regarder vu qu'il est quand même. Il est quand même pas né de la dernière pluie, quoi.
Bon, et bien après cette nouvelle page de publicité.
Tant qu'on est dans la publicité, le dernier truc de l'été, c'est que Mimi 4 s'est passé dans Mister Robot.
Ah oui, c'est vrai.
Ça, c'est de la publicité.
Et le rubber ducky aussi, la clé USB qui simule un clavier.
Oui. Ah ouais, la plupart des gens s'accordent à dire que Mister Robot est quand même extrêmement bien documenté et extrêmement réaliste. Voilà.
Je pense qu'ils ont encore fait exploser les downloads de Kali.
Ouais, mais ils postent aussi, j'ai vu aussi des histoires où ils postent sur Pastebin des documents, des news en se faisant passer pour des groupes assez underground, etc. Et en fait, après analyse, on se rend compte que derrière, il y a la production de Mister Robot qui est là. Donc, à mon avis, ils doivent aussi jouer sur ce côté-là.
Mmh. Ah, maintenant, ils balancent des easter eggs, ouais. Un peu comme The IT Crowd. Si tu as acheté le DVD, c'est bourré d'easter eggs, quoi.
Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.